Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, et nous nous courbons devant toi et te confessons comme le Seigneur de nos vies, le Seigneur de cette réunion, le Seigneur de cette convention, le Seigneur de cette ville de Montmélian, le Seigneur de notre pays de France, le Seigneur de la Suisse, le Seigneur de l'Europe, le Seigneur du monde entier. Alléluia! Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, tu nous aides à comprendre ta parole. Tu mets ton onction sainte sur nous, sur moi aussi, Seigneur, sur mes lèvres, sur ta parole. Car sans toi, je ne peux absolument rien faire, rien, rien. Je compte uniquement sur toi. Et tous ensemble, nous dépendons du Saint-Esprit qui seul donne la vie et la liberté. Oh, nous comptons sur toi, Seigneur, et sur le ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu veux faire et tout ce que tu vas faire dans ta grâce. Seigneur, nous sommes dans l'attente devant toi parce que tu es là à cause de ta parole, à cause de tes promesses, à cause de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Rends nos cœurs attentifs à ta voix, obéissant pour faire tout ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avant de nous laisser conduire dans la prière, il est très important que nous nous plongions dans la méditation de la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous voulons que Dieu se manifeste, il faut que notre foi soit nourrie, fortifiée. Et cette foi vient lorsque la parole de Dieu est prêchée. C'est pourquoi Jésus prenait beaucoup de temps à enseigner la foule avant de prier pour les malades. Il est dit bien souvent qu'il enseignait, qu'il prêchait et qu'il guérissait les malades. Voyez-vous, la guérison venait après parce que chacun avait besoin d'être nourri dans sa foi, non seulement d'être nourri, mais d'être purifié aussi, non seulement d'être purifié, mais d'être corrigé dans sa foi. Il y a tant de choses qui s'opposent à la vraie foi dans notre vie, n'est-ce pas? Il y a tant de croyances, tant de traditions qui n'ont rien à voir avec la vraie foi. Et nous pensons que ces choses sont la vraie foi. Et nous sommes déçus lorsque Dieu n'exauce pas notre prière. Dieu n'a jamais promis d'exaucer tout ce que nous croyons, même si ces choses sont des choses sur Dieu ou des choses religieuses. Dieu n'a jamais promis de confirmer quoi que ce soit qui croit en Dieu, quoi que ce soit qui soit religieux. Dieu n'a jamais promis de confirmer cela. Dieu s'est engagé que dans un seul domaine, mes amis, la parole de Dieu nous dit, ils allèrent partout prêchant la parole. Et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Écoutez-moi bien, mes amis, ceci est important. Et le Seigneur confirmait quoi? Il n'est pas dit la parole des apôtres. Sa parole. dans la mesure où les apôtres prêchaient la parole, Dieu confirmait cette parole. Il est donc vital que nous entendions cette parole, que nous la recevions, qu'elle soit prêchée. Car c'est seulement cela qui nourrit la foi, et c'est seulement cela que Dieu confirme. Alléluia! Et si Dieu confirme sa parole, et il le fera cet après-midi, ce n'est pas pour confirmer que nous sommes meilleurs que les autres ici dans ce lieu, que nous sommes des chrétiens, des super, qui ont une faveur spéciale devant Dieu. Jamais, jamais. Si Dieu confirme sa parole, si Dieu fait des miracles, c'est pour confirmer sa parole. Alléluia! Dieu est lié avec sa parole. Il nous a laissé sa parole pour nous guider dans ce monde, pour connaître la vraie foi qui sauve, la foi qui nous permet de rencontrer Dieu, d'expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Il n'y a que la parole de Dieu. Celui qui ne connaît pas la parole ne connaît pas Jésus. Nous ne connaissons Jésus que par sa parole. Bien souvent, nous parlons de Jésus, nous disons que nous aimons Jésus, mais nous ne le connaissons pas. C'est celui qui connaît sa parole qui connaît Jésus, n'est-ce pas vrai? Fermez ce livre, fermez ce livre. Ne le lisons plus. Et qu'est-ce que vous savez de Jésus? Rien? Ou alors ce que nous savons, tout est tordu. On fait dire au Seigneur ce qu'il n'a jamais dit. On dit, mais Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Et on entend tant de choses là-dessus. Tout ce qu'on entend de Dieu ne vient pas forcément de Dieu. Tout doit être filtré par le filtre de la sainte parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Je racontais une fois ce témoignage d'un serviteur de Dieu, c'est important cela. Il demande au Seigneur qu'il confirme sa parole par des miracles. Il disait, Seigneur, il faut absolument, je ne vois pas tellement de miracles dans mon ministère. Il faut à tout prix que tu confirmes, tu fasses des miracles. Et il l'avait demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas de miracles dans mon ministère? Et le Seigneur lui a dit, mais prêche ma parole et je confirmerai cette parole par des miracles. Le prédicateur, il a été surpris. Il a comme été un peu même fâché de ce que le Seigneur lui dit cela. Parce qu'il pensait prêcher la parole. Il a dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette question que tu me poses? Mais je prêche ta parole, je fais ça tout le temps. Et tu me dis, prêche ma parole. Mais je prêche ta parole, c'est ce que je fais. Le Seigneur lui a dit, la prochaine fois que tu prêcheras, veille et surveille tes paroles. Tu vas passer un test. Tu vas te faire passer un test. Tu vas passer un test toi-même. Et tu vas veiller à tout ce que tu dis. Et tu vas faire un compte-rendu après. Tu vas faire une conclusion à tout cela. Et tu vas voir si vraiment ce n'est que la parole de Dieu que tu prêches. Alors il a dit d'accord. Il pensait que il n'y avait aucun problème. Alors le dimanche suivant, il prêche la Bible. Il commence avec la parole de Dieu. Mais au bout de 5 minutes, il a sorti quelque chose qu'il ne pouvait pas confirmer par la parole de Dieu. Il a sorti quelque chose qu'il avait entendu par le théologien Y ou par le professeur X. Alors, quand il a sorti ça, et qu'il a commencé à parler du professeur un tel ou du théologien Y, il a dit, excusez-moi, frères et sœurs, ce que je vous ai dit là n'est pas dans la parole de Dieu. Alors, il a continué.
Il a pris encore quelques versets de la Bible, et puis d'un seul coup, il a dévié. Et puis il a sorti encore autre chose de ce que la tradition de son église disait. Et tout à coup, il a compris. Mais il a dit, mais moi, je ne peux pas le confirmer par la parole, ce que je dis. Alors il a dit, excusez-moi, frères et sœurs, là encore, j'ai fait une petite déviation. Ce que je vous ai dit là, c'est ce que la tradition de l'église dit, mais ce n'est pas dans la Bible. Et ouf, quand il est arrivé à la fin de son message, il n'y avait plus beaucoup de la parole de Dieu. Il y avait environ 30% de la parole de Dieu et 70% de tradition humaine. Alors après, il a compris. Il a dit, Seigneur, ça c'est une drôle d'histoire alors. C'est seulement aujourd'hui que je comprends cela. Et voilà pourquoi tu ne pouvais pas confirmer la parole que je prêchais. Parce que je prêchais des traditions humaines. On m'a dit ceci, et j'ai cru que c'était dans la Bible. Et on l'enseignait. Et combien le font, n'est-ce pas vrai? Et alors, le dimanche suivant, il a dit, maintenant c'est terminé. Professeur Y, théologien X, ou tradition, je ne sais quoi, maintenant c'est terminé. Et quand il s'est levé pour prêcher, il a balayé toutes ses traditions et tout ce que les hommes pouvaient dire. Mais à la fin du message, il a demandé à Dieu d'attester sa parole, et la puissance de Dieu est tombée sur l'auditoire, et des miracles extraordinaires ont commencé à se manifester. Alléluia! D'où l'importance, mes amis, l'importance de vérifier ce qu'on vous dit. Si c'est vraiment dans la parole de Dieu. Et c'est là dans nos propres églises. Moi, au début, j'ai cru certaines choses qu'on m'a gobées comme cela. Quand on m'a amené à la conversion, on m'a dit aussi tout un tas d'autres choses que j'ai gobées comme ça sans réfléchir. Comme je ne connaissais pas bien ma Bible, alors j'acceptais tout. Mais plus tard, quand j'ai voulu vérifier si c'était bien dans la Bible ce qui est écrit, eh bien, ce n'était pas dans la Bible. Il y avait certaines choses, mais tout n'était pas dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes déçus parfois. Nous sommes déçus. Nous sommes déçus. Et nous ne voyons pas la puissance de Dieu se manifester. Mais si nous nous accrochons à cette parole, amen, Dieu veillera sur elle et la confirmera. Alléluia. Maintenant, je voudrais vous donner brièvement les sept secrets de la puissance des premiers chrétiens. Sept secrets. C'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui, amen. Alors nous allons prendre un passage dans les actes des apôtres. Je crois qu'il manquerait quelque chose si on ne parlait pas des actes des apôtres aujourd'hui. Amen. Il y en a qui ce jour-là, ils ne parlent surtout pas des actes des apôtres. Parce que ce livre les dérange beaucoup, beaucoup. Oh là là, les actes, ça c'est pour il y a 2000 ans en arrière, ça c'était pour là-bas. Mais on n'ouvre plus ce livre-là. Le diable ne veut pas qu'on ouvre ce livre. Et moi, vous savez, quand le diable dit de ne pas faire quelque chose, j'ai un esprit de contradiction à l'égard du diable. Ce qu'il ne veut pas, je le fais. Alléluia! Alléluia! Il y en a qui ont un esprit de contradiction, qui est mal placé. Si tu dois avoir un esprit de contradiction, c'est à l'égard du diable. Amen. Mais malheureusement, on est tout à fait tout à l'envers, nous. On est tout tordu, à l'envers, bizarre, biscordu. À l'égard du diable, il n'y a pas de contradiction. Quand le diable nous dit quelque chose, toi, jamais tu seras guéri, toi. Comment? Tu oses prétendre la guérison? C'est pas possible, c'est pas pour toi. C'est pour les autres, mais pas pour toi. Et qu'est-ce que nous faisons? Ah, oui, c'est vrai. Moi, c'est pas possible. Moi, qui suis-je? D'ailleurs, j'ai tant fait de mal et tout. C'est vrai, c'est vrai. Jamais je ne serai guéri. Les autres seront guéris, mais pas moi. Ou si nous avons commis une faute, le diable vient nous dire, maintenant, c'est fini pour toi. Tu as commis cette faute-là, c'est fini. Tu ne t'en sortiras jamais. Qu'est-ce que nous faisons? Oh, c'est vrai. Oh, comment je vais faire pour m'en sortir? C'est vrai, je m'en sortirai plus. Je m'en sortirai plus, c'est fini. Le diable vient vous dire, Dieu ne t'aime pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'avoir un esprit de contradiction avec le diable. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je le sens d'ailleurs, je sens que Dieu ne m'aime plus. Je sens là, je sens. Dieu ne m'aime pas. Nous nous soumettons à tout ce que le diable dit. Mais quand la parole de Dieu nous dit quelque chose, on est en contradiction avec la parole de Dieu. On se soumet à ce que le diable dit, mais on ne veut pas se soumettre à ce que Dieu dit. Quand Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté », qu'est-ce que nous disons ? « Oh, c'est trop beau pour être vrai, ça c'est trop beau, trop beau, trop beau. » Trop beau ! Et on n'accepte pas. Quand Dieu nous dit que dans ses meurtrissures, nous avons été guéris, « Oh, c'est pas possible, c'est pas possible !» Il faut bien que je souffre un petit peu. Il faut bien que je souffre pour la gloire de Dieu. Nous avons un esprit de contradiction à l'égard de Dieu, alors que c'est à l'égard du diable que nous devrions l'avoir, n'est-ce pas vrai? Amen. Mes amis, c'est cela qu'il faut faire si nous voulons que la puissance de Dieu agisse dans notre vie. Alléluia. Quel était donc le secret? Le secret de la puissance des premiers chrétiens? Lisons dans Acte 4, si vous le voulez bien, quelques versets. Acte 4, à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple, donc les apôtres ont été arrêtés là à cause de la guérison d'un malade, et les pharisiens et les sacrificateurs n'étaient pas contents. Mais Pierre est debout là et leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Alléluia. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Au travers de ces passages et d'autres, je voudrais vous donner brièvement maintenant le secret de la puissance des premiers chrétiens. Ils avaient quelque chose que nous pouvons posséder. Bien souvent, nous disons, « Oh, mais les apôtres, par exemple, ils étaient puissants parce qu'ils avaient été avec Jésus. » Est-ce vrai? On dit, « C'est parce qu'ils avaient été avec Jésus. » Mais si vous lisez bien les évangiles, est-ce que les apôtres ont fait les choses les plus extraordinaires dans leur ministère lorsqu'ils étaient avec Jésus ou loin de Jésus? C'est après Jésus. Au contraire, ils ont eu leur plus grand problème quand Jésus était là. Ça n'allait pas du tout. L'un voulait être le chef. Enfin, tout le monde voulait un peu commander dans l'équipe. Tant que Jésus était là, ça n'allait pas. Mais c'est après, quand Jésus est parti, et que le Saint-Esprit est descendu sur eux tous, c'est alors qu'il y a eu la révolution dans leur ministère. Alléluia! La puissance ne provenait pas de ce qu'ils avaient été avec Jésus, mais leur puissance provenait de ce qu'ils avaient fait une expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! Et le premier secret, c'est celui-ci, mes amis. Ils avaient fait une expérience personnelle avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils étaient des hommes nouveaux. Et voilà pourquoi nul ne pouvait les arrêter. Personne. Écoutez-moi bien, mes amis. Si quelqu'un peut vous arrêter, alors il vaut mieux vous arrêter tout de suite. Vous n'irez pas très loin. Si à la moindre difficulté, on vous arrête, alors je vous donne un petit conseil. Arrêtez-vous tout de suite. Si vous pleurnichez à la moindre opposition, arrêtez-vous tout de suite. Il vaut mieux. Vous n'irez pas loin. Mais si vous avez fait une expérience, si vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, si vous avez fait une expérience avec la puissance du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire une chose. Personne ne vous arrêtera. Amen. On a arrêté Pierre et Jean, on les a pris par la colère, allez en prison. On les a fait ressortir, on leur dit, non, vous vous taisez, hein. Vous vous taisez, c'est tout. Si vous ne vous taisez pas, on vous met en prison. Et autrement, c'est la mort. Mais Pierre et Jean, ils étaient pleins d'assurance. C'était comme si c'était des paroles, vous voyez, qui coulaient comme sur de l'eau sur les plumes d'un canard. Tout ce qu'ils disaient, ils pensaient les traumatiser. Ils voulaient leur faire du mal, mais il n'y a rien qui pénétrait vraiment. Et ils étaient surpris. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pierre, rempli du Saint-Esprit, ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. C'est pourquoi toutes les paroles qu'on pouvait leur dire ne pouvaient pas pénétrer en eux. Et c'est pourquoi ils pouvaient tenir ferme. Mes amis, celui que le diable craint le plus, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Un homme et une femme remplis du Saint-Esprit est une terreur pour le diable. C'est le moment de dire Alléluia. 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 Je répète, un homme et une femme remplis du Saint-Esprit, c'est une terreur pour le diable. Le diable est paniqué devant quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il est paniqué, il est scandalisé, il en a peur. Pourquoi le message de l'Évangile nous est parvenu, mes amis, juste ici? C'est parce que les premiers chrétiens ont fait une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Ils ont été, comme la Bible dit, baptisés dans le Saint-Esprit, immergés dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Gloire à Dieu. Mes amis, c'est ce que tu dois expérimenter. Et si tu l'as expérimenté, tu dois être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Jour après jour, tu dois être renouvelé. Tu dois être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit. Mais sache une chose, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu as en toi quelque chose que ni les hommes, ni le diable ne peut détruire. Rien, personne ne peut t'arrêter. Alléluia! Amen! Alléluia! Voilà pourquoi ils avaient un secret. C'était cette puissance qu'ils avaient reçue. Gloire à Dieu! Pierre, rempli du Saint-Esprit, se tenait devant cette foule. Lui qui quelques semaines avant, il avait renié son maître devant une petite servante, n'est-ce pas vrai? Et quand il était rempli du Saint-Esprit, vous savez ce qu'il a dit à la foule qui était là? Il leur a dit, vous avez renié le Saint et le Juste. Avant la Pentecôte, il était comme un petit agneau. Mais après la Pentecôte, il était comme un lion. Alléluia! Alléluia! Et il leur dit, lui, il leur dit à toute la foule, vous avez renié le Maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a fait toute la différence. Mes amis, ceci est important. Amen. Ça, c'est un de leurs secrets. Nous ne devons pas l'oublier. Un deuxième secret maintenant. Le deuxième secret, c'était qu'ils prêchaient la résurrection de Jésus. Amen. Les premiers chrétiens et les premiers apôtres prêchaient beaucoup là-dessus. Pour eux, la résurrection de Jésus, c'était l'événement le plus incroyable. Les premiers à ne pas croire à la résurrection, c'était les apôtres. Et Jésus a dû mettre 40 jours pour arriver à les convaincre qu'il était ressuscité. N'est-ce pas vrai? Ils avaient de la peine à croire que Jésus pouvait ressusciter. Thomas lui-même s'est écrié, « Si je ne le vois, si je ne mets mes mains dans ses blessures, je ne croirai point. » Mais lorsque Jésus s'est approché de Thomas et qu'il lui a dit, « Viens, ne sois pas incrédule, mais crois, touche mes mains, mon côté. » Et quand il a vu cela, il s'est écrié, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alléluia! Et dans l'esprit des autres apôtres, et Pierre lui-même le dit ici aussi, il le dit aussi, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Avant cela, ils avaient des doutes sur la résurrection. Mais quand le Saint-Esprit est venu, alors il y avait une conviction inébranlable. Jésus était vraiment ressuscité. Amen. Et la résurrection de Jésus était leur propre résurrection. Alléluia! Et c'est pourquoi quand la foule les voyait, c'était des hommes nouveaux, c'était des hommes transformés. Gloire à Dieu! Mes amis, voilà la bonne nouvelle, voilà un secret. Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, il est au milieu de nous. Il est puissant, il est présent et il est vivant. Alléluia! Amen! Nous devons réaliser cela et il est ici au milieu de nous. Le ressuscité est là, il est vivant, il est vivant, il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, il est vivant, alléluia! C'est ce que nous avons besoin de crier aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais, plus que jamais. Jésus-Christ n'est plus suspendu sur la croix. Il y a 2000 ans, il a porté nos péchés, nos maladies sur la croix. Il s'est écrié lorsqu'il est mort. Tout est accompli. Et nous pouvons traduire cette expression plus littéralement et dire « Tout est parfaitement parfait ». Lorsque Jésus est mort sur la croix, son œuvre a été parfaite. Il est mort pour nos péchés et il est mort pour nos maladies. Amen. Alléluia. Le prophète Ésaïe a compris cela lorsqu'il s'écrit dans Ésaïe 53 « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs, nos maladies qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéri, alléluia! Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi nul ne pouvait les arrêter. Ce Jésus ressuscité était avec eux et il est avec nous cet après-midi. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Mes amis, nous avons besoin de réaliser cela. Si tu sais que Jésus est réellement ressuscité, nul ne pourra t'arrêter. Amen. Nul ne pourra t'arrêter. ton Sauveur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisièmement, troisième secret de la puissance des premiers chrétiens, c'était la véracité des Écritures, l'authenticité des Écritures. Voilà encore quelque chose qu'ils ont saisi lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte pour justifier cette expérience et cette effusion du Saint-Esprit. Il a parlé du prophète Joël, il a parlé de David dans les psaumes. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu pour confirmer l'expérience qu'il venait de faire, n'est-ce pas vrai? Et en cela, ils avaient compris quelque chose. Ils ont réalisé que ce que Dieu avait dit s'est accompli. Et ils ont dit, voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est ici ce que le prophète Joël a dit. C'est ici ce que le prophète Ésaïe a dit. Et il y avait une conviction profonde que la parole de Dieu avait dit la vérité. Et même si cette promesse ne s'était pas accomplie tout de suite, Dieu l'a fidèlement accomplie. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Es-tu convaincu de cela? Es-tu convaincu que Dieu tient bien ses promesses? Es-tu convaincu de l'authenticité de la parole de Dieu? Et que même si cette promesse ne s'accomplit pas tout de suite, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et il accomplira en temps voulu le miracle de Dieu. Un jour, je lisais ce témoignage de nos frères dans les pays de l'Est. Il était question d'un chrétien qui était persécuté et on voulait le faire mourir. Mais on se moquait de lui. On prenait le passage, vous savez, dans Marc 16, quand il est dit que tous ceux qui croiront, ils imposeront les mains aux malades, tout cela, ils boiront des breuvages mortels et cela ne leur fera point de mal. Alors, un des persécuteurs qui était là, communiste, s'était approché de ce chrétien et il a dit, bon, on va bien voir si ta Bible, là, c'est vrai. N'est-il pas écrit dans ta Bible que si l'on boit quelques breuvages mortels, ça ne nous fait rien du tout? Oui, il dit, c'est écrit. Eh bien, on va voir si c'est vrai tout cela. Nous allons t'amener un breuvage mortel et on va voir. Tu dois prendre ce breuvage et nous allons voir si c'est vrai. Et pour te montrer que ce breuvage que nous allons te faire boire est vraiment mortel, alors nous allons faire quelque chose. Alors ces communistes se sont approchés, ils ont amené un chien qui était là, un gros chien loup. Et ils ont dit, tu le vois ce chien, on va d'abord faire boire le breuvage mortel à ce chien. Et tu vas voir ce qu'il en est. Ils l'ont fait boire. À peine le chien a-t-il léché ce breuvage, instantanément foudroyé. Paf, mort. Maintenant, c'est ton tour. Alors, il a dit, vous permettez d'abord que je fasse une prière. Je vais d'abord prier, me remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, a-t-il dit, si c'est mon heure de partir, je suis prêt à partir. Mais jamais je ne te renierai. Mais tu peux faire aussi un miracle, Seigneur, pour confondre ces hommes. Je remets ma vie entre tes mains. Et il leur a dit maintenant, amenez ce breuvage. Il a pris ce breuvage et les autres s'attendaient à ce que, instantanément, il tombe par terre. Ils ont attendu. Une minute, deux minutes, trois minutes, rien du tout. Au début, ils étaient là, le sourire moqueur. On va bien voir. Mais comme les minutes passaient et qu'ils ne mouraient pas, ils commençaient à blanchir. Mais surtout l'un des chefs, le chef qui était là, le chef communiste. 10 minutes ont passé, un quart d'heure ont passé, rien du tout. Quand il a vu ça, parce qu'il savait que instantanément il devait être foudroyé. Quand il a vu la puissance de Dieu en action, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa carte d'adhérent au communisme. Il a dit, à partir de maintenant, je déchire ma carte et je vais devenir un chrétien. Alléluia! Alléluia! L'authenticité de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Voilà pourquoi les premiers chrétiens avaient un secret. Ils croyaient en cette authenticité de la parole de Dieu. Ils étaient attachés. Et ils savaient que cette parole était la vérité et qu'elle s'accomplirait tôt ou tard. En es-tu convaincu? Quatrièmement, l'autre secret de leur puissance, c'était les signes, les prodiges et les miracles. Ils expérimentaient la puissance de Dieu dans leur vie. Et à cause de cela, personne ne pouvait les arrêter. Personne. Vous vous rendez compte, quand ils ont expérimenté quelques miracles, en voyant la puissance de Dieu, est-ce que vous pouvez arrêter quelqu'un qui a fait l'expérience de la puissance de Dieu? Personne. Un homme avec une expérience n'est jamais à la merci d'un homme avec un argument. Jamais. Si tu as fait une expérience de la puissance de Dieu, tu ne seras jamais à la merci d'un homme avec des arguments. Amen. Et voilà pourquoi nous avons besoin plus que jamais de voir la puissance de Dieu au milieu de nous. Amen. Pourquoi étaient-ils forts, les premiers chrétiens? C'est parce qu'ils ont fait cette expérience-là. Ils étaient entrés dans une nouvelle dimension de la puissance de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, mes amis, c'est triste à dire ce que je vous dis maintenant. Il y a des chrétiens dans les églises qui n'ont jamais vu un miracle de leur vie. Oui ou non? Oui ou non? Jamais! Jamais un miracle! Ce n'est pas étonnant que ces chrétiens abandonnent la foi. Ce n'est pas étonnant que la tiédeur s'installe dans l'église. Le compromis. La manifestation miraculeuse de Dieu doit être normale dans l'église. Amen. Quand nous voyons des miracles, cela doit être normal. C'est quand il n'y a pas de miracle, nous devons nous poser la question. Ah tiens, aujourd'hui, il n'y a pas eu de miracle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien souvent, c'est l'inverse avec certains chrétiens. Quand ils vont dans une réunion, ils voient des miracles. C'est bizarre ici. Il y a eu un miracle. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, je ferai attention. Tu sais, fais attention avec ces gens. Tu as vu un miracle? Ça vient peut-être du diable. Attention. Attention, c'est dangereux. Il y a des miracles dans cette église. On est tellement habitué à ne rien voir, à ne voir que la rhétorique de l'homme, le savoir de l'homme, les titres de l'homme, la tradition de l'homme, que la puissance de Dieu n'y est plus. Et voilà pourquoi nous trébuchons, nous abandonnons la foi, et devant le courant de ce monde, des puissances mauvaises aujourd'hui, combien, regardez-moi ça, la contradiction des contradictions, ces chrétiens qui ne croient pas au miracle sont les premiers qui courent chez les charlatans. Vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Bon, je vais répéter, n'ayez pas peur. Ces chrétiens qui ne croient pas au miracle, ce sont les premiers qui courent chez les charlatans, chez les guérisseurs. Et quand un guérisseur dit, « Ah, moi, j'ai un don de Dieu. » C'est par un don de Dieu, ça vient dans la famille, du père, du grand-père, enfin après, je ne sais plus, c'est l'arrière-grand-mère, ou je ne sais plus qui c'est, enfin, mais ça, tu sais, c'est un don de Dieu. Et ces gens-là, ah oui, mais tu sais, il m'a dit que ça venait de Dieu. Insensé! Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, parce qu'il n'y a pas le revêtement du Saint-Esprit, on ne discerne pas ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du diable. Et quand Dieu fait un miracle dans l'église, on dit attention, dangereux, ça peut venir du diable. On accepte ce qui vient du diable et on refuse ce qui vient de Dieu. N'est-ce pas triste? Quel était le secret de la puissance des premiers chrétiens? C'était qu'ils croyaient dans les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. Je lisais le témoignage d'un médecin missionnaire au Brésil. Et il prêchait dans le fin fond de la brousse là-bas, il est allé dans une tribu qui ne connaissait pas du tout l'évangile. Il est allé jusque là-bas, au fin fond de cette brousse, et là, il a rencontré des païens qui vraiment étaient méchants. Alors, il savait plus très bien ce qu'il fallait faire tout à coup. Il s'est trouvé au sein de cette tribu un peu sauvage. Il voulait leur parler du Seigneur, mais il ne savait pas. Il savait pas comment il fallait faire. Et tout le monde était là, hostile autour de lui. Il a dit, Seigneur, que ça y est, c'est sûrement ma dernière heure. Je suis venu pour leur prêcher l'Évangile, mais j'ai l'impression que c'est terminé. Il a dit, Seigneur, avant qu'il me fasse quelque chose, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Et tout à coup, il a senti comme une puissance qui venait sur lui. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et dès que le Saint-Esprit est venu sur lui, il s'est levé. Et il y avait près d'un arbre, il y avait un homme qui était là. Il ne connaissait pas le bonhomme, rien du tout. Il a été poussé à mettre la main sur la tête de ce bonhomme. Et au moment où il a mis la main sur la tête de cet homme s'est écrié, « Je vois, je vois, je vois !» C'était un aveugle et il ne le savait pas. Alléluia ! C'était un aveugle et il ne le savait pas. Et quand ces païens ont vu ça, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est sûrement un Dieu qui est au milieu de nous. Un Dieu. Alors lui, il ne savait plus du tout ce qu'il fallait faire. Il leur disait, Jésus, Jésus, Jésus. Il essayait de leur expliquer, Jésus. Alors, il n'arrivait pas très bien à s'en sortir. Mais il croyait que c'était un Dieu. Et ils se sont dit, si c'est un Dieu, alors on doit l'éprouver maintenant. On doit l'éprouver. Alors, ils ont dit, viens ici. Lui aussi, on lui a fait le test de la boisson mortelle. Allez, viens voir, bois ça. Ils lui ont donné à boire. Ça me fait du bien aussi. Il a bu cette calebasse, un poison mortel dedans. Rien du tout. Je dis, mais c'est pas possible. Qui c'est ce bonhomme ? Rien. Bon, alors quand ils ont vu ça, ils ont dit, on va faire un autre test maintenant. Ils ont pris une flèche et ils l'ont transpercée de part en part. Il bougeait pas. Il bougeait pas, il était là toujours. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Ils ont retiré la flèche et il n'y avait rien du tout. Je dis, mais qui c'est ce bonhomme ? On va faire un troisième test. Ils l'ont pris, ils sont allés au bord de la rivière. Ils ont dit, maintenant, toi, on va se mettre la tête sous l'eau. Et ils l'ont laissé. Plusieurs minutes sous l'eau ! Plusieurs minutes ! Ils n'ont pas réussi à le noyer. Plusieurs minutes ! Bougez pas. Il n'arrivait pas. Alors après, ils l'ont sorti de l'eau. Ils disent, mais qui es-tu, toi ? Et c'est là qu'ils ont été convaincus de la vérité et qu'il a pu, d'une manière ou d'une autre, les amener au Seigneur. Et c'est ainsi que toute cette tribu s'est convertie. Amen. Alléluia. Dites-moi, vous ne croyez pas qu'on en a besoin aujourd'hui ? Vous ne croyez pas qu'on en a besoin aujourd'hui ? Souvent j'entends, ah mais Dieu a fait des miracles, c'est pour les premiers, c'est pour les premiers chrétiens. Au début, vous savez, dans l'église primitive, c'était pour faire démarrer l'église. Ils en avaient besoin. À ce moment-là, il y avait des païens. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Ils ont encore pire aujourd'hui. Et les païens d'aujourd'hui n'ont pas besoin de voir le miracle de Dieu. Vous croyez que ça leur ferait du mal? Ça faisait du bien au premier païen, et ça fait du mal au dernier païen. Quelle stupidité! Si les premiers en avaient besoin, les derniers en ont autant besoin, et sinon plus. Amen! Alléluia! Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera demain. Ce n'est pas Jésus qui a changé, c'est nous qui avons changé. Ce n'est pas Jésus qui a changé, c'est nous, mes amis. Car lui, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et nous avons de plus en plus besoin de la manifestation miraculeuse de Dieu, mes amis. Alléluia. Et cet homme, ce médecin missionnaire, un jour, il se trouvait dans une convention, à quelques années après, avec tous ces païens convertis maintenant. Il se trouvait dans une convention, c'était au-dessus d'une montagne. Écoutez bien maintenant. Au-dessus d'une montagne. Et là, ils sont restés 3 jours dans une convention, comme ici. Mais pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Ils n'avaient rien à manger pendant 3 jours. Et les gens commençaient à avoir faim. Et lui, il a dit, Seigneur, tu vois, ça fait 3 jours qu'on est là. Il n'y a rien à manger, il faut que tu fasses un miracle. Fais quelque chose. On est perdu dans la montagne, là-haut. Fais quelque chose. Et ils ont prié tout simplement, « Seigneur, fais un miracle. » Et vous savez ce qui s'est passé? Tout à coup, il y a comme un vent violent, puissant, descendu sur le lac qui était en bas de la montagne. Au bas de la montagne, il y avait un grand lac. Et ce vent a soufflé sur le lac. Et en soufflant sur le lac, vous savez ce qui s'est passé? Les poissons commencent à gicler de l'eau. Et à gicler avec une telle puissance que tous les poissons sont montés du côté de la montagne et sont tombés sur tous les chrétiens. Alléluia! Alléluia! Ils étaient là, les poissons leur tombaient sur la tête. Ding, 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 ding. Partout, les poissons leur tombaient sur la tête. C'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que Dieu est capable de faire cela? Mais voyons, si Dieu est Dieu, il est capable de faire n'importe quoi. Voilà pourquoi les premiers chrétiens avaient un secret. Ils croyaient en la puissance miraculeuse de Dieu. Et nous en avons plus que jamais besoin. Amen. D'ailleurs, écoutez-moi bien, mes amis, dans ces temps de la fin, ceux qui tiendront vraiment le coup, ce sont ceux qui croiront à l'intervention miraculeuse de Dieu dans leur vie. Celui qui ne croit pas au miracle sera emporté par le courant de ce monde et des puissances mauvaises. Mais nous n'avons pas besoin d'être effrayés, mes amis. Dieu a mis à notre disposition cette puissance de Dieu. Amen. Et lorsqu'ils virent cet homme guéri, ils n'avaient plus rien à répliquer. Amen. Quand les gens auront la bouche bée devant nous, lorsqu'ils verront les gens guéris, ils ne pourront plus rien dire, tandis que maintenant ils se moquent bien de nous. Ils ouvrent bien grand de leur bouche. Mais lorsque la puissance de Dieu se manifestera, mes amis, même s'ils ne croient pas, ils seront sans réplique. Amen. Voilà pourquoi ils avaient un secret. Ils croyaient à la puissance miraculeuse de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Cinquième secret. Ils ont expérimenté une profonde unité spirituelle. Amen. Ils avaient entre eux une profonde unité spirituelle. On disait d'eux, voyez comme il le sait. Il y avait une telle unité parmi ces premiers chrétiens qu'à cause de cela, ils étaient invincible, alléluia. C'était réellement le secret de leur puissance. Quand il y dit un peu plus bas, lorsqu'ils retournèrent vers leurs frères, vous savez, après leur persécution, ils allèrent vers leurs frères, ils racontèrent tout ce que les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Regardez-moi ça. Il y avait l'unité. Il n'y en a pas un qui a dit, « Oh, eh bien, voilà, vous croyez au miracle, hein? Eh bien, voilà ce que c'est maintenant de croire au miracle. À cause de tout cela, on a des difficultés maintenant. C'est pas sage, Pierre, ce que tu as fait. C'est pas sage, Jean. Je te conseille, la prudence exige que maintenant, vous restiez tranquille. Ne prêchez plus un Dieu qui fait des miracles. Pourquoi est-ce que vous avez guéri cet homme? Voyez maintenant, on a que des difficultés. C'est ce qu'on aurait dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est guéri aujourd'hui, lundi, on verra ça une autre fois. On verra si ça tient. L'autre dit c'est du diable. L'autre dit, oh, c'est du cinéma. Alors comment voulez-vous que ça marche? Comment voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste, mes amis? Écoutez-moi bien, ceci est capital. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit agissait avec une telle intensité au milieu des premiers chrétiens. C'est parce qu'ils étaient profondément unis spirituellement. Amen. Ils étaient nés de nouveau, bien sûr. Il n'y a pas d'unité en dehors de la croix et de la nouvelle naissance. Amen. Quand je parle d'unité, je ne parle pas de cette unité œcuménique où il y a cette salade de toutes les religions. Cela n'a rien à voir avec l'unité spirituelle des premiers chrétiens. Amen. Mais c'est cette unité d'hommes et de femmes qui ont passé par la nouvelle naissance et qui ont fait de Jésus le Seigneur et la passion de leur vie. Amen. Il y avait une telle unité. Ils étaient tous là soumis au Seigneur, aimant le Seigneur et profondément attachés l'un à l'autre. Alléluia. Voilà pourquoi ils étaient profondément unis. Mes amis, il faut que nous retrouvions cela. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. Un frère, une fois, m'a attiré mon regard sur un passage de l'Apocalypse. Je voudrais qu'on lise maintenant au sujet de l'unité des chrétiens. Un passage que vous connaissez, Apocalypse 5, verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Tu es digne et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de... Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a quatre choses ici. Lisons-les bien. Ceci est important. Les hommes de toute tribu, voyez-vous, des tribus. Ensuite, toute langue, toute quoi? Tout peuple et toute nation. Écoutez bien, à la fin, il n'est pas dit et de toute dénomination. Avez-vous remarqué ici? Il n'est pas dit de toute dénomination, mais de toute nation. Dans tout ce passage, il n'est pas dit qu'il y avait en haut des gens rachetés de toutes les dénominations. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sur cette terre, nous attachons beaucoup d'importance à sa dénomination, n'est-ce pas vrai? Je ne parlerai d'aucune parce que toutes sont au même niveau devant Dieu. Mais nous attachons tous de l'importance aux dénominations. Moi, je suis de telle dénomination. Moi, je suis de telle dénomination. Mais savez-vous qu'au ciel, le terme dénomination n'existe pas? C'est la découverte que vous ferez là-haut. L'un de telle dénomination, l'autre de telle dénomination, au ciel, ne connaît pas. On ne connaît pas les dénominations dans le ciel. Ça, c'est une malédiction de la terre. Et cette malédiction n'entrera jamais au ciel. Vous pouvez dire alléluia. Alléluia. Les dénominations, c'est une malédiction sur cette terre. Et dans le ciel, il n'y a rien de tout ça. Ils sont rachetés de toute race, toute langue, tout peuple, toute nation, mais pas de toute dénomination. Pourquoi? Parce que les dénominations n'ont aucune valeur là-bas. Ce qui est important, c'est que tu sois racheté par le sang de Jésus. Alléluia! Tu peux appartenir à telle dénomination et ne pas être racheté par le sang de Jésus. Tu n'entreras jamais au ciel. Les dénominations n'ont aucune valeur devant Dieu. C'est ce qui nous divise, n'est-ce pas vrai, mes amis? Et c'est pourquoi ici, dans nos conventions, jamais nous ne parlons de dénomination. Nous ne parlons que de Jésus. Amen. Et si vous êtes né de nouveau, si vous avez fait une expérience de la régénération, que Jésus-Christ est votre sauveur et que vous êtes lavé dans le sang de Jésus, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur. Amen. Alléluia. Je suis uni à vous et vous êtes uni à moi. Nous formons la famille du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia! Mais l'important, c'est que nous soyons rachetés par le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang, ce n'est pas ta dénomination, ce n'est pas ton église, ce ne sont pas tes souffrances, ce ne sont pas tes prières, ce ne sont pas tes bonnes œuvres, ce n'est rien de cela, c'est le sang de Jésus. Amen! Le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Amen! Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Amen. Quand on a compris cela, mes amis, alors nous expérimenterons cette profonde unité spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Sixièmement, le sixième secret de leur puissance, c'est qu'ils avaient un esprit de prière et d'adoration. Amen. Voilà un autre secret, mes amis. À peine étaient-ils remplis du Saint-Esprit
qu'ils parlaient en d'autres langues et chantaient dans des langues nouvelles les merveilles de Dieu. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez constamment les premiers chrétiens dans la prière et dans l'adoration. Voilà pourquoi ils étaient puissants, mes amis. C'est pourquoi, si nous voulons redécouvrir cette puissance, nous devons redécouvrir la puissance qu'il y a dans la prière et dans l'adoration. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier sur l'adoration ici, parce que l'adoration, c'est le premier ministère du chrétien. C'est le premier ministère du chrétien. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Avez-vous remarqué l'ordre? Il est dit d'abord, tu adoreras. Premièrement, nous devons être des adorateurs avant d'être des serviteurs. Tu adoreras et tu le serviras lui seul. Mais aujourd'hui, nous le servons beaucoup, le Seigneur. Mais il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de prière. On ne se tient pas dans le secret de la présence de Dieu. Et voilà pourquoi il n'y a pas de puissance. Les premiers apôtres ont passé par ce danger-là. Vous savez, quand il y a eu des histoires avec les veuves, vous savez dans Acte 6, n'est-ce pas? Avec les veuves, il y a eu des histoires. Les disciples augmentaient beaucoup. Et puis il y avait un peu du favoritisme. On s'occupait davantage des veuves juives que des veuves d'origine grecque. Et alors les apôtres commençaient aussi à faire pas mal de choses. Et ils ont choisi cet homme, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cette tâche. Et nous, disent les apôtres, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Voilà le secret de leur puissance. Avant de prêcher la parole, c'était des hommes qui persévéraient dans les prières, et essentiellement dans la prière d'adoration. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une découverte. C'est un ministère que Dieu te donne. Et beaucoup d'entre vous, si vous êtes fidèles dans ce ministère de l'adoration, à l'église et dans votre maison, vous ne pouvez plus être la même personne. C'est impossible. Vous allez découvrir une nouvelle puissance. Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui ont découvert la puissance qu'il y a dans l'adoration? Levez la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment une puissance, n'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi on ne pouvait pas les arrêter, ces premiers chrétiens. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le septième secret de leur puissance, ils avaient un amour ardent pour les âmes, pour les perdus. Amen. Ils avaient un amour, une passion pour les âmes. Jésus leur avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus leur a communiqué cette passion des âmes. Mes amis, personne ne pourra vous arrêter si vous avez en vous cette passion des âmes. Amen. Celui qui a l'amour des âmes, celui qui a la passion des âmes, celui-là va découvrir le secret de la puissance. Car Dieu donnera à cette personne toujours une puissance renouvelée. Amen. Mais celui qui vit pour lui-même, celui qui utilise les bénédictions spirituelles pour ses intérêts personnels, celui-là perdra tout. Perdra tout. Mais si nous recevons les bénédictions dans le but de les communiquer aux autres, dans le but d'aller sauver des âmes et délivrer des captifs, mes amis, Dieu vous renouvellera dans sa puissance. Amen. Dieu vous renouvellera, car Dieu vous visitera là où vous êtes, là où il y a des besoins. Dieu viendra à votre secours, devant un malade, devant un opprimé, devant un délaissé, devant un rejeté, devant quelqu'un qui souffre. Dieu vous viendra en aide et il vous donnera les dons qu'il faut pour apporter la délivrance. Amen. Voilà pourquoi ils étaient puissants. Ils avaient la passion des âmes. Mais beaucoup d'entre nous avons perdu cela. Nous tournons autour de nous-mêmes. Nous sommes des égoïstes. Nous ne vivons que pour nous. Nous ne pensons qu'à nous.
Tout ce que tu gardes pour toi, tu le perdras. Tout ce que tu donnes aux autres, Dieu te le redonnera. Alléluia! Amen. Mes amis, voilà les 7 secrets de leur puissance. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'accepter ces choses, d'accepter d'être remis en question. Amen. Et de dire, Seigneur, je veux aussi découvrir ce secret. Je veux être comme ces premiers chrétiens. Je veux expérimenter ces puissances. Vous le savez désormais, si vous mettez en pratique ces 7 choses, vous ne pouvez pas être les mêmes personnes. Amen.